Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le réveil culturel, à la radio, tôt le matin ou en podcast, quand vous voulez. Et on commence par une programmation spéciale aujourd'hui, toute cette semaine sur France Culture. On parlera des élections municipales, mais à partir du prisme de la culture, identité, égalité, attractivité, les territoires de la culture. Jusqu'au 17 février, toutes les émissions de France Culture vont aborder cette thématique, car c'est une campagne électorale étrange qui commence d'ailleurs sur les braises des mouvements sociaux. C'est une élection assez étrange parce que d'anciens maires jettent l'éponge et les nouveaux candidats préfèrent se présenter sans étiquette politique. Bien sûr, il y a des citoyens qui continuent à croire en leurs maires et en leurs élus municipaux, alors que les thèses du clivage entre le peuple et les élites, entre les villes et les campagnes, continuent d'alimenter le débat politique national. Mais quelle place a la culture dans ces territoires-là? Et ben, on en parle donc toute cette semaine sur France Culture et dans le Réveil Culturel. Et aujourd'hui, je suis avec deux invités, deux éditeurs qui travaillent loin du 6e arrondissement de Paris. Marion Mazoric, qui est installée à Vauvert, près de Nîmes, dans le Gard. Au Diable Vauvert fête cette année ses 20 ans et nous serons donc en duplex avec elle, elle qui se trouve actuellement à Nîmes. Et présent avec nous au studio, Florian Torres, qui avec son frère Yves Torres a lancé les éditions du Typhon à Marseille. Florian Torres est présent avec nous.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, bonjour Florian Torres.
Eh ben bonjour et merci de l'invitation.
Et bonjour Marion Mazoric, vous êtes en duplex depuis Nîmes.
Tout à fait Toufik, bonjour et merci aussi de cette invitation ici en duplex, c'est encore plus agréable.
Vous avez un parcours exemplaire, Marion Mazoric, parce que vous étiez installée à Paris, dans le 6e arrondissement. Vous aviez votre place de directrice de collection aux éditions J'ai lu, c'est-à-dire...
Directrice éditoriale aux éditions J'ai lu, c'était une belle maison, beau poste.
Et vous avez tout abandonné pour retrouver votre terre natale et pour vous lancer dans l'édition à partir d'un territoire qui n'était pas cartographié, qui n'était pas repéré comme un des pôles de l'édition en France.
Effectivement, Saint-Germain-des-Prés n'avait pas cartographié au Diable Vauvert, mais ça a un peu progressé. Effectivement, c'était un petit territoire en plus au sud de Vauvert, entre les prés et les costières, les prés de Petite Camargue, et donc le début des marais, c'est magnifique. C'est très inspirant, hein, je le dis, on a pu créer une résidence d'auteur, et justement on a pu monter directement une maison avec à laquelle une association est adossée qui agit sur le territoire pour développer les actions autour du livre en faveur des auteurs. Et donc on a créé cette résidence et donc un petit pôle en fait, un vrai petit pôle d'intelligence littéraire au milieu des marais et avec une vraie ambition nationale, même internationale. Et puis ben voilà, c'est 20 ans. Enfin ça a fonctionné puisqu'on est vivant et je dirais même en plus en forme qu'il y a 20 ans.
Est-ce que votre métier a changé votre relation à la littérature, aux auteurs, même au métier d'éditrice? Est-ce que cela a changé entre le moment où vous étiez à Paris ou le moment où vous vous installez à Vauvert, Marion Mazoric?
C'était déjà vrai puisque je voulais créer, enfin je suis partie d'abord pour des motifs personnels, comme vous l'avez dit, retrouver ma famille, monter ma... Je ne pouvais pas en fait, j'étais pas
mes chevaux, mes taureaux
besoin,
aussi.
Les chevaux, les taureaux, la Camargue et effectivement de la pollution lumineuse toute la journée, toute la nuit, jamais voir le ciel. Enfin vous savez, des choses qui font qu'on est profondément lié à la province, comme on dit, à la campagne, parce que c'est dans mon sang, dans mes origines familiales. Donc j'avais besoin de ça. Et je me suis pas rendu compte, au début d'ailleurs, ce nom qui est un peu provocateur, on disait très fièrement, bon bah maintenant Saint-Germain-des-Prés, c'est au Diable Vauvert. Et on était un petit peu, il faut être gonflé à bloc hein, quand vous créez une maison, mais je me rendais pas compte des décalages créés. Et finalement, je crois que c'est l'année dernière, avec la publication de Crépuscule et son succès incroyable qui s'est fait hors justement des circuits des réseaux parisiens, nationaux habituels, beaucoup par les réseaux sociaux, mais on a vu en France des choses extraordinaires, des amphis pleins de centaines de personnes de tous âges, ce qu'on voit plus jamais à Paris, que je me suis dit qu'en fait, j'aurais jamais pu... Pour nous, ça avait une grande logique de publier ce texte qui était critique par rapport au réel, mais qui est une vraie écriture du réel aussi, et un document brillant, etc. Donc c'était d'une grande logique.
C'est qui l'auteur?
C'est Juan Branco. Vous savez, c'est oui. le fameux Crépuscule de Juan Branco qui a donc fait 100 000 exemplaires et qui est parmi les 10 meilleures ventes de l'an dernier et qui nous a fait beaucoup de bien à la veille de nos 20 ans, mais qui en même temps m'a permis de, parce que c'est un titre qui a été très très critiqué dans le Petit Paris et qui a été très peu, enfin qui n'a pas du tout été chroniqué dans la presse nationale. Et c'est la première fois qu'on avait à ce point un succès qui partait de la France, des gens, des réseaux sociaux et puis des gens, et qui n'était pas dans les instances du livre habituel, c'est-à-dire la presse. Nous, d'habitude, on a une presse tout à fait intéressée et
cet exemple incarne, d'après vous, la bataille entre Paris et la France.
Non, mais m'a fait comprendre que le décalage, le fait d'être à Vauvert et d'être décentralisé, y compris dans les choix éditoriaux, dans la façon d'envisager les choses. Par exemple, ce bouquin ne m'a pas fait peur, alors que c'est vrai qu'il mettait en cause bien des gens. Il avait été beaucoup refusé à Paris, par risque juridique. On n'a eu aucune pression d'aucun ordre. Et pour moi, c'était une évidence, parce que je voyais, finalement, on a d'autres sources d'informations, vous savez, quand on n'est pas à Paris. Et je me rends compte que finalement, Paris crée un système. Alors, j'y suis très liée, bien sûr, par mes implications d'éditeurs, au SNE, toutes les réunions interprofessionnelles, etc. Mais je me rends compte à quel point est-ce que finalement, quand on vit dans une ville extrêmement cultivée, où il y a 800 spectacles tous les soirs, où on est toujours entre nous, on se croise tout le temps, et que des gens de bonne vertu et de bonne culture, mais finalement, on fabrique une espèce d'autarcie qui fait que, et puis surtout, on prend nos informations au même endroit. Et donc, on a du mal avec un décalage du regard. Vous voyez, nous, ça fait 2 ans qu'on a commencé à accroître la poésie au diable très fortement, et pas seulement avec des auteurs français. 2-3 ans, parce qu'on sent à quel point la poésie, elle tisse le lectorat, et aussi beaucoup le jeune lectorat, mais le lectorat populaire à travers le rap et toutes les nouvelles cultures. On le sent parce que quand vous faites quelque chose en province, comme on dit de Paris, immédiatement, vous avez des publics. Alors qu'à Paris, tout ça, quand on fait une rencontre en librairie, il y a 10 personnes. C'est un petit vernissage entre amis. Ici, quand on travaille en direction du lectorat, des publics, du lancement d'un livre, on crée des vrais événements autour des auteurs. Et on voit converger toute une série de gens, d'intelligence, d'artistes. Il y a beaucoup, les artistes sont plutôt pauvres, et ils vivent de plus en plus ailleurs qu'à Paris parce que c'est trop cher. On a énormément d'artistes dans nos campagnes. Voilà, donc si vous voulez, il y a des vraies ressources et il y a un décalage du regard, je pense, un lien avec une France qui est la nôtre et qui est forcément mixte. Et il y a une géographie des quartiers à Paris qui est redoutable. Moi, je fréquente et j'adore le 5e et 6e parce que c'est mon bureau, mais quand je suis à Paris. Mais si vous voulez, en même temps, on vit
dans une bulle, c'est ça?
Une espèce de ghetto, oui, dans une bulle. Un contre-ghetto, comment vous dire. Mais alors, c'est les pinsons Charlot en acte, comment vous dire. Et cette centralité française et cette haute culture française qu'on a dans cette ville de Paris. Mais finalement, dès qu'on en est sorti, je sais pas ce que diront mes confrères, mais on est beaucoup plus créatif, en fait, beaucoup plus libre. Enfin, moi, voilà ce que je me suis dit l'an dernier. Je me suis dit, finalement, malgré toutes ces difficultés, parce que Vauvert, effectivement, c'était pas gagné, j'ai mésestimé même à quel point est-ce que ça allait enrichir notre audace et notre ligne éditoriale et notre ouverture éditoriale.
Voilà. Est-ce que vous avez fait des choix à Vauvert que vous n'auriez pas assumé ou fait à Paris?
Bien sûr.
Marion Mazurik, pourquoi?
À commencer par la ligne de Taurine-Tauromachie, territoriale et écologique qu'on a publiée. J'ai mis 5 ans à m'y déterminer, alors que c'était sous mes yeux, puisque je suis une grande passionnée et que j'y suis impliquée familialement, personnellement. Enfin, on vit au milieu de ces taureaux, de ces chevaux, de ces cultures taurines du Sud. Et c'était dans mon intimité. Et justement, à cause de ça, je portais sans doute pas un regard professionnel. Et c'est Denis Colombe-Donnant, le fameux grand manadier, artiste camarguais qui est mort aujourd'hui, mais qui avait inventé Crin Blanc, que tout le monde connaît, et qui est venu me proposer ses œuvres. Et puis Simon Casas, avec son premier roman, enfin sa première autofiction, Tache d'encre et de sang. Et c'est eux qui m'ont amené à publier dans ce domaine que je pratiquais, jusqu'à me rendre compte que c'était évidemment une histoire culturelle populaire, c'est-à-dire qui avait les mêmes caractéristiques que ce que je peux faire dans le rock ou dans le hip-hop ou dans toute autre culture populaire active et vivante. C'était éminemment créatif, que la tauromachie était évidemment un art qui avait des forts liens avec la littérature. Donc on a créé le prix Hemingway avec cette association des avocats du diable qui est adossée au Diable Vauvert. On avait créé une résidence d'auteur, donc ça a créé une dynamique importante. Et aujourd'hui, on a régénéré un rayon qui a publié beaucoup sur ces cultures territoriales complètement inconnues que sont la course camarguaise. Il n'y avait aucun livre et c'est un ancien raseteur, Jacques Siméon, qui est devenu écrivain et qui publie chez nous des textes tout à fait magnifiques où qui sont nécessaires sur un plan anthropologique.
Et qui intéresse.
Il raconte ce pays. Ouais.
Et qui intéresse au-delà même du pays, du territoire.
Bien évidemment, et qui font lire aussi des gens qui ne sont pas forcément lecteurs. Donc, si vous voulez, alors.
Parlons de cette résidence d'écrivain, si vous voulez bien, Marion Mazorik, puisque cette semaine sur France Culture, je le disais, ce sera une semaine spéciale. Toutes les émissions, tous nos programmes tourneront autour des élections municipales 2020 et aborderont surtout la problématique des politiques culturelles, les territoires de la culture. Alors, vous, par exemple, cette résidence d'écrivain a besoin de subventions. Quels sont vos rapports avec les élus locaux,
Excellent avec tous, je dirais, puisque tous les territoires aident depuis le début cette résidence et ce projet ensuite de développement autour des prix de la nouvelle. Et puis, bon, c'est le premier axe étant d'abord de travailler au développement de la lecture, hein, c'est-à-dire que c'est d'abord une association qui s'est donnée pour mission de développer la lecture et de la partager également entre tous. Et alors, on a été aidé immédiatement par la région Languedoc-Roussillon, qui est maintenant Occitanie, mais aussi la ville de Nîmes, avec qui on fait beaucoup enfin, le prix Hemingway, il est nîmois, en fait, tout simplement. Mmh. Mais la commune de Vauvert, qui est très pauvre, mais qui nous héberge quand même, avec un loyer, disons, qui est... Le département du Gard, de toute façon, est un des départements les plus pauvres de France, faut le savoir. Et donc, les collectivités territoriales ont plus ou moins de moyens, mais elles nous accompagnent toutes à leur hauteur. Et quelle que soit d'ailleurs leur orientation, leur couleur politique.
C'est la question que je voulais vous poser.
Ça, c'est une vraie victoire.
Marion Mazorik, en 20 ans de Diable Vauvert, comment vous avez vu évoluer les politiques culturelles dans ce territoire-là, à Vauvert, chez vous ?
Bilan contrasté, disons. Du point de vue du livre, j'ai vu, pas seulement en Occitanie, mais dans toutes les régions, et en Occitanie très précisément, toutes les régions se sont dotées maintenant d'agences du livre qui sont extrêmement efficaces. Et c'est vrai qu'on a une action interprofessionnelle du livre depuis le ministère de la Culture jusqu'aux régions qui est tout à fait excellente avec des DRAC. Tout ça étant plutôt à préserver parce que les crédits se réduisent pour les DRAC par exemple. L'État a plutôt tendance à se désengager, mais les régions, elles s'engagent. Et la région Occitanie, elle a envie d'être un peu modèle dans ce domaine. Donc elle travaille très très bien, mais comme d'autres régions, la région Aquitaine, la région Rhône-Alpes,
enfin, on a vraiment une excellence dans ce domaine-là. Contrasté, vous parlez des autres...
Voilà, alors dans les autres domaines...
Oui, dans les autres domaines.
Les formes artistiques autres, je les connais moins, mais disons que ce que je note quand même sur le territoire de l'Occitanie et le territoire qui me concerne, c'est-à-dire celui de la Petite Camargue, c'est qu'on est dans des zones où les inégalités dans l'accès à la culture sont de plus en plus... criante et où on a même aussi, on est en fer de lance, des politiques de lutte pour l'alphabétisation et tout simplement des politiques de gens qui migrent, qui arrivent et qui sont vraiment laissés pour compte. Alors si vous voulez, cette politique-là, cette inégalité d'accès à la culture en général, je pense que effectivement ça fait partie des enjeux des municipales. Il faut que les élus ils s'engagent sur ce fait parce que à l'échelle territoriale, on peut vraiment résoudre des choses. Ça commence sur comment est-ce qu'on pense la construction de la ville. Il faut arrêter les ghettos. À chaque fois qu'on construit, maintenant on cède les territoires à des promoteurs immobiliers qui font un ghetto pauvre, la petite cité résidence. Enfin, vous voyez, il n'y a plus de politique de la citoyenneté dans les villes et on écarte des centres. Les sociologues, vous savez ce que vous disiez tout à l'heure sur la centralité Paris et la province, c'est pas ça, c'est les centres. On va publier un livre d'ailleurs d'un collectif Auton sur Valenciennes qui travaille justement sur ces villes moyennes et qui explique bien qu'à l'échelle même des villes moyennes ou des petites villes françaises, on crée cet isolement entre le centre et sa périphérie et des quartiers ghettos et puis des quartiers privilégiés. Et donc il y a un vrai enjeu sur les territoires des municipales, effectivement, à rendre accessible à tous la culture, ce qui était quand même la marque de la française. L'école était obligatoire pour tous, tout le monde recevait un livre, et d'ailleurs ce qu'on appelle la démocratie ou l'ascenseur social fonctionnait. Là, on a une société très paralysée, c'est ce que nous disent les mouvements sociaux de la dernière année, parce que les injustices sont assez criantes. Et je pense que à l'échelle des villes, ça se voit beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des territoires abandonnés et des territoires privilégiés. Et là, bah, il y a une action culturelle à mener prioritaire. Mais alors, par contre, sachez qu'il y a aussi des grandes ressources sur le territoire de la France. C'est-à-dire que je dirais, on s'en occupe. Et alors, le on, bah, c'est à la fois des collectivités territoriales, des villes qui sont attentives à ça, et puis surtout un tissu d'associations. Donc, il y a des fortes lignes en France de résistance, de culture, de gens qui s'impliquent, de bénévoles qui travaillent. C'est ce qui crée ce pays qui est en train de retrouver aussi je sais plus qui disait, ce pays retrouve, c'est Olivier Todd, sa conscience de classe, c'est un peu vrai, quoi. Mais voilà, en tout cas, il y a ces deux choses-là qui sont très nettes.
Marion Mazori, que je rappelle que depuis 20 ans, vous êtes installée à Vauvert, où vous dirigez les éditions Au Diable Vauvert.
J'aime lire les grands récits de chasse, l'odeur de la besace, le muscle du cheval, les plumes sous les balles. J'aime lire l'album de la comtesse, les tresses et la détresse. J'aime quand un simple mousse la trousse et la détrousse. J'aime lire les trajectoires en pente, les épopées sanglantes, brusquement et soudain, pourtant tout allait bien. J'aime lire, mais non, je ne l'ouvrirai pas, je la laisserai là, cachetée, silencieuse, je ne risquerai pas. J'aime lire.
J'aime lire, même si je n'habite pas Paris. C'était Albin de la Simone, bien sûr. Donc un réveil culturel spécial, élection municipale, politique culturelle. D'ailleurs, toute cette semaine, nos programmes tourneront autour de cette thématique, les territoires de la culture. Marion Mazurik reste avec nous en duplex de Nîmes et nous avons avec nous Florian Torres. Bonjour.
Bonjour.
Florian Torres, vous, avec votre frère Yves Torres, vous avez fondé les éditions du Typhon à Marseille. Vous avez démarré en octobre 2018.
Exactement.
Et vous avez décidé de promouvoir une littérature gothique et aussi des essais autour du post-apo, comme on dit, hein, c'est-à-dire comment imaginer le monde après l'effondrement. Cette maison d'édition est à Marseille.
Alors oui, c'est une maison d'édition, on l'a fondée en octobre 2018, le premier livre est paru en octobre 2018. C'est une maison d'édition qui a deux collections, une première qui s'appelle « Après la tempête », qui s'intéresse à la littérature post-conflit, ce qui peut se passer justement après, par exemple, la Seconde Guerre mondiale ou un autre conflit. On s'intéresse à la façon dont la violence se déplace, par exemple, avec les phénomènes de rémanence qui va persister dans un élément de violence. Et puis, il y a une question sous-jacente que se posent ces livres-là, c'est moins comment gagner la guerre que comment gagner la paix. Et c'est un petit peu une thématique qu'on va retrouver d'œuvre en œuvre, avec une autre volonté, c'est de faire un tour au niveau des littératures européennes. On a commencé en Angleterre, ensuite on est allé en Allemagne. Et notre dernier livre qui est paru au mois de janvier, c'est La Petite Apocalypse de Tadeusz Konwicki. Là, c'est un auteur polonais. Et effectivement, on a une seconde collection qui s'appelle Les Hallucinés et qui s'intéresse à la littérature gothique. Mmh. C'est une façon, si vous voulez, voilà, ces questions de violence, de racisme, de rapport à l'altérité, de les traiter sur un mode métaphorique. Et c'est également une façon pour nous, à travers la littérature gothique, hein, vous savez, il y a ces grandes figures, les Sœurs Brontë, Anne Radcliffe, Mary Shelley, de rendre hommage à une histoire féminine de la littérature. Et là, on sort un premier roman, on ne fait pas que dans le patrimoine, un premier roman, on en est très fiers, Le Chien Noir de Lucie Barat. Ça sort au mois de mars.
Alors, comment on fait quand on est à Marseille pour lancer une maison d'édition? Vous avez donc cette idée, vous avez cette envie d'éditer ce genre de texte, vous avez même trouvé une phrase pour expliquer votre démarche en tant qu'éditeur. Vous dites que vous cherchez en Europe et ailleurs des voies du passé qui éclairent puissamment nos problématiques contemporaines. Mais comment on fait? Est-ce que vous êtes aussi dépendant des aides publiques, d'une politique culturelle de la ville?
Oui, alors le point de départ, il est pas très original, c'est la passion de la littérature. Voilà, et vous savez que la passion, c'est une formule de Cocteau, hein, c'est comme les mantres religieuses, ça dévore ceux qui les adorent. Et on a lu, aimé beaucoup de maisons d'édition également, on voyait tout ce travail qui était fait, et on s'est dit, allez, Être à Marseille, ça a été une chance d'une certaine mesure, parce qu'on est, bien aidé, on est bien soutenu par l'Agence du Livre de Marseille et la Région Sud. Donc grâce à ça, voilà, petit à petit, ils essaient de nous aider pour faire par exemple des tournées libraires, être présents à Livre Paris, en tout cas nous donner un coup de pouce pour qu'on puisse avoir un petit peu de visibilité. Mais ça reste extrêmement artisanal, et le nerf de la guerre pour les petites maisons d'édition, ça reste le rapport au libraire, donc vraiment ce maillage du territoire, vous voyez, pour que ces librairies partout, à Lyon, à Toulouse, à Paris, etc., etc. Une bonne chose, cela dit, c'est que vous les connaissez, hein, les librairies marseillaises, voilà, elles font tout pour survivre, se battre, on travaille bien avec elles aussi, elles sont curieuses dans la mesure où, vous voyez, elles nous invitent, on essaie de faire des rencontres, elles sont peut-être peu nombreuses, mais elles essaient d'être, on ne peut plus, vivantes.
Marion Mazurik, vous qui êtes à Nîmes, vous venez d'entendre Florian Thorez, qui vient donc de lancer depuis enfin 2 ans les éditions du Typhon à Marseille.
Le féliciter parce que bon, c'est vrai que je suis assez sensible à ces littératures, puisque vu ce que je publie, c'est évident que les sources sont là, mais voilà, ça y est, je vais être absolument une lectrice régulière de sa maison. Maintenant, c'est évident, il m'a très bien vendu sa maison, donc je pense que ça va marcher. Vous savez, le territoire d'un éditeur, en fait, c'est pas la ville où il est. Alors, à la fois, c'est la ville où il est parce qu'il faut planter ses pieds dans son sol pour pouvoir pousser, mais en même temps, quand on vend des livres, comme on le fait visiblement tous les deux, aussi bien Diable Vauvert que... Bon, alors, le Diable Vauvert, c'est une maison généraliste, hein, qui s'intéresse plutôt à des écritures du réel et nourrie de pop culture, etc., qu'à avoir travaillé dans un seul champ de la littérature. Donc, nous, on aime bien décloisonner les gens, mais globalement, on est dans la même problématique. C'est-à-dire que il faut qu'on convainque de nos auteurs sur tout le territoire national et pas seulement la ville où on est. Et effectivement, le boulot, c'est énorme. Il faut prendre son bâton de pèlerin, aller voir les libraires. Il faut... notre territoire, il est national, le territoire d'expansion d'un éditeur. Donc, c'est vrai que les régions peuvent nous aider à... Mais c'est peanuts dans nos chiffres d'affaires. Et c'est... D'ailleurs, je dois avouer que moi, j'ai toujours privilégié justement le travail de terrain avec les libraires, les foires internationales pour la cession de droit, le salon du livre de Paris, les salons du livre sur tout le territoire national, plutôt qu'un dossier d'aide quand j'avais pas le temps, et c'est très long. Enfin, il y a une différence entre l'action associative dont je parlais tout à l'heure, qui est une action, alors la bénévole en direction des publics, qui ne peut exister que si elle est aidée, et puis l'action privée d'un éditeur qui fait un métier à haut risque, qui parie sa vie dans chaque choix, et qui, jusqu'à la 15e année, n'est pas absolument sûr de passer l'année suivante, si vous voulez. C'est... Et à la fois, c'est ce qui fait la beauté de ce métier de Paris, mais on ne réussit que si on arrive à diffuser nos livres sur un territoire national.
Et enfin,
national.
Pour terminer, pour rebondir sur ce que venait de dire Florian Thorez, les librairies, les libraires, et s'il fallait plutôt avoir une politique culturelle consacrée aux livres et pour aider le livre, c'est plutôt vers ces librairies qu'il faudrait concentrer les efforts de la puissance publique. Vous êtes d'accord avec ça, Marion Mazurik?
Bien sûr, ça se fait déjà beaucoup. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a eu des programmes depuis 20 ans qui ont permis à la librairie française d'être dans le bel état où elle est. C'est-à-dire qu'il y a quand même des librairies partout. Il y a des aides importantes. Et cette année, là, la bonne nouvelle, c'est que la librairie indépendante s'en tire plutôt bien. On est plutôt inquiet pour les très grosses librairies, ce qu'on appelle les vaisseaux amirales, qui payent des loyers de plus en plus importants. Alors là aussi, les maires peuvent influer. C'est-à-dire, maire de France, offrez les loyers des librairies que vous avez dans toutes les villes, ou aidez-les à ne pas payer de loyers, parce que c'est ce qui plombe les budgets des librairies.
Ah ben voilà, une idée, la première idée de notre semaine consacrée,
voilà,
justement,
mais absolument,
au territoire de la culture.
Et défalquer aussi les charges diverses liées au territoire. Quand vous avez une librairie dans votre ville revit. C'est comme si vous mettiez une maison de la culture. Et le libraire, c'est un militant du livre et des idées, de l'échange d'idées, de la rencontre. Donc c'est toute ville qui a une librairie active, et les libraires sont tous actifs par nature, sinon ils sont pas vivants. Maire de France, partout, aider des librairies à s'installer. Voilà, c'est mon message.
Merci.
Nous,
il a été très,
mieux.
Très entendu ce matin. Pour terminer avec vous, Florian Thorez, vous qui êtes jeune, avec votre frère, vous êtes plutôt encore plus que jamais librairie, comme vous l'avez dit.
On est vraiment très attaché à la librairie, très attaché aux rencontres. On se mobilise beaucoup, les libraires également, pour en organiser le plus possible, en imaginant peut-être des formats différents où les lecteurs puissent intervenir, en imaginant également de croiser avec d'autres arts. Voyez là, par
le
exemple,
le cinéma, la musique.
Exactement, le cinéma, la musique, etc. Ça nous semble très important. Et pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, on essaie de travailler dans une logique d'alliance, quoi. Voyez, c'est cette fameuse formule de l'indépendance, mais également de l'interdépendance entre ces différentes structures. Alliance que ce soit au niveau du territoire, et puis également alliance avec d'autres pays. Nous, on a un tropisme vers l'Allemagne. On a publié par exemple La mort à Rome de Wolfgang Köppen. Et là, on a un auteur allemand contemporain qui sort en octobre 2020, c'est Mirko Bonnet, Nîmes Ernhardt, La plus jamais nuit. Et on a eu l'habitude de travailler avec une maison d'édition allemande, Schöffling, dans le cadre du partenariat du jumelage entre la ville de Marseille et la ville de Hambourg. Voilà, donc on essaie de trouver des petites logiques, des alliances pour survivre.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
Et à la page de l'émission, vous aurez notre choix, c'est-à-dire nos trois coups de cœur des éditions du Typhon, représentés ce matin par Florian Torres, ainsi que les trois livres pour fêter les 20 ans de notre des éditions Au Diable Vauvert. Corinne Amar à la coordination, Vincent Abouchard à la réalisation, avec ce matin à la prise de son, Jean-Louis Deloncle. La semaine consacrée aux politiques culturelles commence sur France Culture. On se retrouve demain avec une autre thématique concernant les musées. Bonne matinée sur France Culture.